Donc j'en étais à mon grand C, l'évangile de Marc ou l'histoire dramatique d'une découverte. Quand on ouvre l'évangile de Marc, c'est sa longueur qui surprend. Il est le plus court des quatre. Seulement 16 chapitres. Rappelez-moi, Mathieu, combien de chapitres ? 1068 versets, bravo. Il y en a une qui a écouté. Et combien de chapitres ? Vous pouvez regarder la Bible. Hein. 28. Et Luc ? 24 dans l'Évangile et dans les Actes 28, je pense. On va vérifier. Et Jean ? 21. Donc Marc, 16. On pourrait dire que Marc est un supporteur de l'OM. Il va droit au but. Pas les boules au but, mais il va droit au but. Hein. Vraiment pour lui, l'essentiel, c'est Jésus. Jésus mort et ressuscité. Rien sur l'enfance de Jésus, c'est Matthieu et Luc qui en parlent, et rien sur sa naissance non plus. Dès le premier verset que je vous ai lu ce matin, le ton est donné, tout est dit, commencement de l'évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. La grande question qui occupe Saint Marc et ses lecteurs, c'est ce que je vous ai mis, je crois, sur le plan, c'est « Mais qui est-il ? Qui donc est cet homme ?» On pourrait intituler son évangile « L'histoire dramatique de la découverte du Fils de Dieu ». Son récit est construit tout autour de la question et de son suspense. Mais qui donc est cet homme? On a lu tout à l'heure, ce matin, un passage où c'est Jésus lui-même qui pose la question. Qui suis-je au dire des gens? Qui suis-je pour vous? Mais au début de son évangile, quand ce sont les démons qui lui disent « Nous savons, nous, qui tu es le Fils de Dieu », ou bien quand Pierre lui dit « Tu es le Messie », ou même quand le Père, sur la montagne de la Transfiguration, dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », systématiquement, Jésus interdit d'en parler. Le Fils de l'homme doit être rejeté, dit-il, être mis à mort et ressuscité. Je dis ça à des disciples qui sont bien bouchés. Dans l'évangile de Marc, les disciples sont un peu bouchés. Comme nous d'ailleurs, souvent. Comme le cidre. Mais c'est bon le cidre aussi. C'est pas marqué hein, sur mon topo. Et ce n'est que lors de la Passion que l'on pourra vraiment dire qui est Jésus. Ce n'est que au pied de la croix, à la fin du récit, que le centurion romain s'écrira « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Du coup, on retrouve le titre, les premiers mots de son évangile. Jésus est Christ, mais sa manière d'être Christ n'est pas facile à vivre et à dire. Il est fils de Dieu. Et ça nous est révélé par la croix. Cette croix que les disciples du temps de Marc vivent. Pas la croix de Jésus, mais leur croix à eux. Les persécutions à Rome. Autrement dit, il n'y a pas d'autre chemin que celui-là pour connaître et vivre de Jésus. Alors, je vous ai mis, je vais aller assez vite, les grands axes pour connaître l'Évangile. D'abord son auteur, c'est le premier point. Ensuite, oui, il y a un petit souci, mais bon, ce serait un point numéro 2, hein, destinataire, lieu et date. Vous pouvez corriger. Un point numéro 3, style, composition, plan. Vous pouvez ajouter une barre à chaque fois. Et un quatrième point, les grandes lignes de sa théologie. L'auteur. Rien dans son évangile ne laisse soupçonner son identité. Pas même l'épisode de ce jeune homme qui fuit nu lors de l'arrestation de Jésus. Vous allez voir Marc 14, 51-52. Certains exégètes ont dit, tiens, c'est peut-être la signature de ce jeune homme-là qui a assisté à la passion et qui fuit en lâchant son manteau. Mais le texte ne nous le dit pas. On peut le penser. Pourtant, la tradition est unanime, attribuant le deuxième évangile à saint Marc. Et je vous ai mis le témoignage de Papias, 120-110. Je vous le lis dans une autre version que celle que j'ai mise dans le plan. C'est en fait Eusèbe de Césarée qui cite « Voici ce que disait le presbytre Jean. » Et vous avez la suite. « Marc, qui est devenu l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. Car il n'avait pas entendu ou accompagné le Seigneur, mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait ses enseignements selon les besoins, sans faire une synthèse des paroles du Seigneur. De la sorte, Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu en effet qu'un seul dessein, celui de ne rien laisser de côté de ce qu'il avait entendu et ne tromper en rien dans ce qu'il rapportait. » Voilà la large citation, vous avez l'essentiel. Que retenir de ce témoignage précieux? La première chose, c'est que Marc est lié à Pierre, hein, il est même l'interprète, avec ses hermeneutos, c'est-à-dire herméneutique, interprète de Pierre, et Papias ajoute, il le suivit et mémorisa ses instructions. Deuxième enseignement, Marc fut fidèle en écrivant, avec exactitude, mais pourtant sans ordre. Papias ajoute à ce que dit Eusèbe, que sa fidélité était celle de Pierre. Et enfin, troisième enseignement, non seulement il a écrit avec exactitude, mais il a écrit sans ordre. Et c'est ça que Papias attribue à Pierre. Cette attribution à un personnage de second plan dans le deuxième siècle n'a pas pu être inventée. Et donc, à la suite de Papias, l'évêque de Hierapolis en Phrygie, je me souviens bien, les témoignages ne manquent pas. Justin, Irénée, Tertullien, Clément d'Alexandrie, Origène, tous affirment que le deuxième évangile a été écrit par Marc, disciple et interprète de Pierre. Non. Voilà, un disciple de la deuxième génération. Donc, il a connu Paul, mais pas le Christ. Deuxième étape, toujours dans la recherche de qui est l'auteur, eh bien, le Nouveau Testament nous en parle. Donc, vous l'avez sur votre plan, en Actes 12-12, les Actes mentionnent un certain Jean, surnommé Marc, ou bien surnommé Jean en acte 13-5, ou bien Marc en acte 15-39. Fils d'une certaine Marie, qui accueillait la première communauté dans sa maison à Jérusalem, si on ne le sait pas, acte 12-12, il était d'abord compagnon de Pierre, puis compagnon de Paul, et puis ensuite à nouveau compagnon de Pierre, qu'il appelle son fils bien-aimé. Alors, quelques exemples. Dans les lettres de Paul, trois fois il est question de Marc. En 2 Timothée 4:11, Paul dit, il est très concret, hein, « Prends Marc avec toi, il m'est précieux pour le ministère. » Après, il dit, « N'oublie pas de me ramener le pull que j'avais oublié. » Non, ça y est, le manteau que j'avais déposé à Carpos. Ouais. Donc prends Marc avec toi, il est précieux pour le ministère. Ensuite, on le retrouve à Rome, aux côtés de Paul captif, en Philémon 24, petit billet à Philémon, verset 24, et Colossiens 4, 10. Colossiens 4, 10. Donc Paul prisonnier envoie Marc en Asie mineure. Et puis enfin, dans la belle salutation de la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 13, 1 Pierre 5, 13, je vous lis, la communauté des élus, c'est-à-dire des chrétiens, qui est à Babylone, Babylone c'est-à-dire Rome, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Marc, mon fils. Marc aura donc été en relation d'abord avec Pierre, puis avec Paul, et de nouveau avec Pierre après la mort de Paul. Un mot quand même de ce qui s'est passé lors du premier voyage missionnaire. Paul se joint à Barnabé et ils arrivent en Asie mineure devant la montagne du Taurus. Donc il y avait un passage délicat. Et Marc, sans doute, a eu peur. Donc Marc repart avec Sylvain et Paul part avec Barnabé. Donc se sépare à ce moment-là. Pour rejoindre Jérusalem. Voilà. Donc c'est très précieux, hein, tous ces témoignages-là du Nouveau Testament qui nous parlent de Jean-Marc ou de Marc. Deuxième point, les destinataires et les dates. Et le lieu. Donc c'est à Rome, juste avant ou après la mort de Pierre, donc vers 65-70. Marc s'adresse à des chrétiens d'origine non juive, n'habitant pas la Palestine. Par exemple, Marc explique que les juifs, par exemple, ont des coutumes, nettoient les plats, les coupes. S'il s'adressait à des destinataires juifs, il n'aurait pas besoin de raconter ce que font les juifs. Donc, s'adresse aux non-chrétiens. Souvent, il y a des erreurs, il ne connaît pas bien les lieux, des latinismes hein, qui étaient en faveur d'une rédaction à Rome pour des non-juifs. Que dire de cette communauté? J'ai retenu quatre points. Une communauté en crise. Les chrétiens sont persécutés par les juifs, par les romains, avec deux grandes dates, la guerre juive de 66 et la chute de Jérusalem en 70 pour la Palestine. Et puis pour Rome, l'incendie en 64, que Néron attribue aux chrétiens, et la guerre civile de 68-69. Donc période de crise. Deuxième aspect, une communauté qui est invitée à reconnaître et à suivre Jésus. Et un des lieux de cette reconnaissance, de cette séquela, de cette suite, c'est le culte. Les exégètes ont affirmé, il y a plusieurs thèses là-dessus, qu'on lisait l'ensemble de l'évangile de Marc comme initiation pour les nouveaux baptisés lors de la vigile pascale. Il faut à peu près une heure et quart, je crois, pour lire l'ensemble de l'évangile de Marc. Troisième point, une communauté missionnaire qui peu à peu intègre les païens. Et en ce sens, l'évangile de Marc est très universaliste. Jésus ne se cantonne pas au territoire de la Palestine habituel. Il va en Syrophénicie rencontrer une femme, il va à Gérasa guérir un possédé. Donc il quitte le petit territoire de Judée, Galilée, Samarie. On a aussi, on le verra tout à l'heure, une multiplication des pains pour les juifs en territoire juif et une multiplication des pains en territoire païen pour les non-juifs. Et puis le centurion romain, c'est bien un païen, qui proclame Jésus, fils de Dieu. Et enfin, une communauté qui s'organise, qui s'ouvre à d'autres collaborateurs. Jésus dit au possédé de Gérasa, ben, maintenant tu seras missionnaire de la miséricorde chez toi. mais aussi il va être apôtre, hein, il va suivre Jésus sur le chemin. Donc on peut parler d'une foi exposée, contestée, pour laquelle il faut prendre des risques jusqu'à la croix. Troisième point, quel est le style, la composition, le plan de son évangile? Je crois que Pierre de Berger en avait parlé quand il était venu. Donc, voilà, c'est le style donc de la koiné, le grec courant, utilisé dans le bassin méditerranéen du 1er siècle. Donc c'est vraiment un art de raconter. Pour le plan. Donc deux possibilités. Si on prend la perspective géographique, donc là c'est plutôt Élian Cuvillier, le ministère de Jésus se passe en trois temps. D'abord la Galilée, ensuite des déplacements continus et sa montée à Jérusalem, et enfin les événements de Jérusalem, encadrés par une introduction rapide et un prologue. Par un épilogue ensuite. Deuxième perspective, la perspective théologique, donc c'est celle qui nous est donnée par le premier verset, hein, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc là, on aurait aussi une introduction, un prologue avec le titre, puis toute la première partie qui est donc cet homme et Pierre dit « Tu es le Messie », donc le mystère du Messie, qui aboutit à la charnière qui est la confession de Pierre, puis une deuxième partie, ce Messie se révèle le Fils de l'homme, hein, qui doit souffrir et ressusciter, donc le mystère du Fils de l'homme, pour arriver à la confession du centurion, qui fait parallèle avec celle de Pierre, cet homme était vraiment Fils de Dieu, et puis l'épilogue de Jésus ressuscité. Voilà, je vous enverrai mon topo, j'avais un peu plus détaillé, mais là j'avance. Quatrième point, les grandes lignes théologiques. Donc, comme je vous le disais, Marc il va droit au but. Hein. Il est centré sur le message de Jésus-Christ, homme, fils de Dieu, mort et ressuscité. Première ligne théologique, le secret messianique. Donc on peut dire que c'est une des spécificités de l'évangile de Marc, même si Matthieu et Luc en parlent aussi, mais c'est moins fort que chez Marc. Il s'agit, ce secret messianique, d'un donné traditionnel, hein, qui provient de Jésus lui-même, et Marc en a forcé le trait. Hein. Alors, je cherche le papier où je l'avais un peu plus détaillé. Bon, on doit pas être loin, mais on va faire avec. Donc en gros deux idées. D'abord le fait que le Fils de l'homme doit passer par la passion, hein, le fameux il faut, hein, il faut que le Fils de l'homme souffre, meure et ressuscite. Donc c'est la raison d'être du secret. Si la gloire de Jésus, Fils de Dieu et Messie, rayonne sur le Christ d'avant Pâques, d'une certaine manière, il la voile, hein, cette gloire, pour que, au pied de la croix, enfin le disciple puisse vraiment comprendre, hein, qui il était, sa véritable gloire, sa véritable identité. La gloire, c'est le poids, c'est le rayonnement d'une personne et de Dieu. Donc, nécessité de la passion. Et Deuxième idée, c'est le fait que chez Marc, les disciples, ils sont toujours dans l'incompréhension. Et donc, c'est un peu une mise en garde par l'évangéliste pour les chrétiens de cette église persécutée d'oublier le chemin qui a conduit à la passion et à la résurrection, et donc de voir trop vite le Christ glorieux. Donc, n'oubliez pas qu'il y a le chemin de croix, le chemin du serviteur. Deuxième ligne théologique, c'est le portrait que Marc nous fait de Jésus, un Jésus très humain, dont Marc nous décrit les émotions, les joies, les impatiences, la fatigue, l'ignorance. Nul ne sait le jour, même pas le Fils de l'homme, mais que le Père qui le sait. Aussi le découragement. Gethsémani, le Jésus de Marc, demande dans le psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors que Luc reprend le psaume, en tes mains, je remets mon esprit, psaume 31. Donc un Jésus très humain, qui partage tous nos sentiments, nos expériences humaines. Un Jésus aussi qui est rassembleur, qui attire beaucoup les foules, qui enseigne, qui guérit, qui nourrit le peuple de Dieu par sa parole. L'homme qui marche, dont je parlais ce matin, toujours pressé, overbooké, on va dire, l'urgence du message qui lui fait vivre des journées assez dingues, en particulier la journée de Capharnaüm, au chapitre 2. Un rassembleur. Ensuite, c'est aussi un accompagné, il est toujours avec ses disciples, chez Marc, il est rarement seul, il n'y a que trois moments où il est seul, c'est quand il prie, souvent il va à la montagne pour retrouver son père, il y a quand il est tenté au désert, conduit par l'esprit pour être tenté, et puis à Gethsémani, les trois amis sont endormis. Mais sinon, il est toujours avec eux, donc accompagné, mais aussi accompagnateur. C'est lui qui forme ses disciples pour être avec lui. C'est un enseignant aussi, qui enseigne avec autorité. Autorité, c'est faire grandir en grec. Et son enseignement suscite l'étonnement. Qui donc est-il pour parler ainsi? Qui donc est-il pour que même le vent et la mer se calment à sa parole? Donc il parle à tous, à la foule, mais c'est surtout aux siens, à ses disciples qu'il explique. Enfin, Marc nous décrit aussi le regard de Jésus, un regard qui fascine, un regard qui étonne. Donc il y a une dizaine de passages où il est question du regard de Jésus, soit un regard circulaire qui interroge les pharisiens au cœur endurci, ou bien voilà, le regard qui se pose sur l'homme pécheur. Un regard qui pose question. Qui est-il? Pourquoi agit-il ainsi? Un regard attentif qui aime jusqu'à sauver et guérir. Et enfin, c'est un homme d'action qui guérit, qui triomphe des puissances du mal, souvent après une rencontre personnelle. Troisième point sur les lignes théologiques, troisième ligne, c'est le petit C, le drame du refus. Donc, l'amour de Jésus étant très exigeant, il se heurte forcément au rejet, à la moquerie, au refus, à l'incompréhension. Et donc, pour lui, ça passe par le dépouillement de lui-même et la croix. La mort est la conséquence logique de son ministère, de ses actes comme de ses paroles. Le chemin qu'il propose, c'est le chemin du serviteur, de l'esclave. Il passe par l'humble service et l'abandon. Souvent, on le verra dans la mission chez Marc, les démons ou Satan veulent faire échouer la mission de Jésus, toujours en le tirant du côté de la gloire, de la toute-puissance. Non, Jésus suit le chemin du serviteur, la suite de Jean-Baptiste, Jésus reste seul lors de la passion, personne ne peut le suivre, même pas Pierre, hein, dont la figure est importante dans l'évangile de Marc. Pourtant, Jésus reste un homme libre, maître de lui-même, maître de son histoire. C'est lui qui domine les événements. Enfin, dernier point dans le portrait de Jésus, l'ouverture aux païens. Donc, puisque Marc s'adresse à des chrétiens d'origine païenne, il insiste sur le fait que Jésus était attentif à tous, qu'ils soient juifs ou païens. Et vous avez un certain nombre de personnages que Jésus rencontre, mais on va y revenir tout à l'heure. En conclusion, son évangile a été appelé souvent l'évangile de la Galilée. De fait, cette région, la Galilée, est très importante dans l'œuvre de Marc. Elle est ce lieu de mélange entre juifs et païens. On l'appelait le carrefour des nations. Elle est aussi le lieu des commencements et des recommencements. C'est là que Jésus a appelé ses disciples, au tout début. C'est là qu'il a enseigné en parabole, qu'il a fait des miracles. Et c'est là que le rendez-vous leur sera donné à la résurrection. Il vous précède en Galilée. En conclusion, comme en Galilée, Jésus est celui qui nous précède sur le chemin. Marc n'a écrit que le commencement de l'évangile. Aussi à la suite du Christ et de ses disciples, il nous reste à poursuivre le chemin et à écrire l'évangile de nos vies aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à Pierre. Peut-être on va prendre le refrain « Heureux, bienheureux » pour nous stimuler. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
Oui, bonjour à tous. Bon, alors je ne suis pas un bibliste, je suis quelqu'un comme vous, qui me suis passionné finalement pour la lecture de la Bible au contact notamment du père Moulian, mais également de frère Vianney. Et donc, à la demande de Benoît Nouvelle, je vous présente un livre qui est un excellent outil pour les modérateurs des groupes de lecture de la Bible, mais qui peut être aussi un excellent outil pour chacun de vous s'il a envie de lire la Bible tout seul dans son coin. Bien que vous le savez, la Bible se partage. Hein. Alors, comment lire ce livre s'appelle « Comment lire un évangile Saint-Marc ». C'est de Michel Quesnel, que moi je ne connaissais pas, qui enseignait l'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris. Et son ouvrage, édité au Seuil à Paris, date de 1984. Alors, en préambule, Michel Quesnel s'adresse au lecteur que nous sommes. Il fait part de ce qui est fondamental dans l'évangile de Saint-Marc, selon Saint-Marc, et une chose que nous ne devrons jamais oublier au fur et à mesure de notre avancée dans la lecture. Le personnage central, vous l'avez déjà entendu, mais ne jamais l'oublier, le personnage central, c'est Jésus. Et toute l'œuvre de Marc amène à découvrir son identité. Ensuite, autour de Jésus, il faut bien établir les personnes qui sont rencontrées. Il y a d'abord ses adversaires, dont l'attitude nous permettra de réagir. Hein. On va se dire, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? Qu'est-ce que c'est ? Bon. Ensuite, il y a la foule. La foule qui a un comportement extrêmement ambigu, qui nous rappelle les attitudes que nous pouvons avoir nous-mêmes selon les circonstances. Rappelez-vous, la foule, pour les rameaux, elle porte Jésus, elle voudrait le mettre sur le trône, et quelques jours plus tard, il hurle à mort. En fait, il y a ses amis, les disciples, dont la démarche est complexe, mais c'est celle aussi, la démarche que nous avons, nous, hein, en règle générale. Les disciples, ils découvrent, ils adhèrent, ils refusent, ils ont peur, ils s'enthousiasment, ils se découragent. Enfin, vous voyez, ils passent par toutes les palettes des sentiments. Donc, ce qui fait qu'à travers les disciples, Marc entreprend une pédagogie de la foi. Comme cette pédagogie est évolutive, Marc doit être lu à la suite, c'est-à-dire de la première à la dernière ligne. Ne sautez pas les paragraphes. Et ainsi, on peut goûter pleinement son enseignement. D'autre part, nous savons que Marc s'adresse à des Romains, anciens païens convertis, plutôt qu'à des Juifs. Et ces Romains ont à subir la persécution de Néron. Aussi, Marc veut les encourager à tenir bon. Il faut qu'ils gardent l'espérance du royaume de Dieu malgré toutes les difficultés. Donc, à travers ce préambule, Michel Quesnel nous donne des clés pour lire Marc. Son ouvrage, c'est une aide à la compréhension du texte, et du texte de Marc, bien sûr, et surtout à la réflexion que l'évangile de selon saint Marc nous inspire. D'ailleurs, dans son livre, Michel Quesnel utilise un vocabulaire simple et direct. Nous n'avons pas besoin de nous armer d'un dictionnaire de théologie pour comprendre ses commentaires. Là, pas de problème, hein. C'est facile, on comprend tout. Ces derniers, ces commentaires, il les apporte verset par verset, ou plus exactement par groupe de versets qui se suivent. En effet, ce livre, qui comporte 300 pages environ, est divisé en 102 sections. Et chacune de ces sections, il appelle ça des sections, chacune de ces sections regroupe de 3 à 13 versets. Alors, chaque section concerne un épisode des actes de Jésus ou de son enseignement. Par exemple, la section 23, j'ai pris au hasard, hein, concerne la parole de la terre ensemencée, la parabole, pardon, de la terre ensemencée, si vous préférez, la parabole du semeur, chapitre 4, versets 1 à 9. La section 40, c'est la religion au service de la vie et non l'inverse, c'est l'hypocrisie des règles religieuses de l'époque. C'est chapitre 7, versets 1 à 13, alors que la section 7 s'arrête à la première guérison faite par Jésus, la guérison de la belle-mère de Pierre, en seulement 3 versets, chapitre 1, 29 à 31. On a donc dans ce livre une suite de 102 chapitres ou événements indépendants les uns des autres. On peut croire que chacun d'eux se suffit à lui-même. Pourtant, Michel Quesnel nous a prévenus, même si on prend le temps de le faire, on peut le lire en 3 mois, 6 mois, ou en un jour, hein, ou en 1 heure et quart. Il faut lire l'évangile de Marc sans sauter le moindre passage, car tout se tient et découle de ce qui précède. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une trame de base. C'est pour nous la découverte de Jésus. Qui est cet homme ? Par ses paroles, par ses actes, que nous enseigne-t-il ? Alors, un des mérites de Michel Quesnel, c'est de nous faire voir que des détails donnés par Marc nous apportent en fait une occasion de réflexion plus poussée, car chaque phrase de son évangile est d'une grande richesse. Un exemple. Au chapitre 14, versets 51 et 52, lors de l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémane des Oliviers, nous lisons « Un jeune homme l'accompagnait, enveloppé d'un linge sur son corps nu, et ils se saisissent de lui. Mais lui, abandonnant le linge, s'enfuit tout nu. » Mais je vous donne le commentaire de Michel Quesnel. qui est très intéressant, vous allez voir. Alors, le jeune homme qui s'enfuit en abandonnant le linge qui le couvrait, on a souvent voulu y voir un souvenir personnel de l'évangéliste. Ce serait lui, Marc, jeune habitant de Jérusalem, à qui l'histoire serait arrivée et qui l'aurait rapporté dans son œuvre, un peu comme une signature. Ce n'est pas du tout impossible. Hein. Mais l'événement semble avoir une portée surtout symbolique, suggérée par les mots que le texte emploie. Il s'agit d'un jeune homme, terme employé plus loin dans la scène du tombeau ouvert pour désigner celui qu'annonce la résurrection aux femmes. Donc chapitre 16, verset 5. Et il est enveloppé d'un linge, tout comme le sera le cadavre de Jésus après sa descente de croix. Ça, c'est chapitre 15, verset 46. Le personnage laissant son linceul aux agents de la mort, donc les gardes qui arrêtent Jésus, hein, et accédant tout nu à la liberté, est alors sans doute une figure symbolique de Jésus ressuscitant en abandonnant son linceul au tombeau. Jésus va être effectivement arrêté et mené au supplice, mais aucune force hostile n'est capable de l'emprisonner totalement. Sa vie échappera aux mains de ses adversaires, tout comme ce jeune fugitif qui symboliquement leur file entre les doigts. Vous voyez au passage que c'est facile à lire, hein, et on le comprend bien. Donc Michel Quesnel a basé son travail sur une traduction la plus proche possible du texte original, écrit en grec comme tous les textes du Nouveau Testament, et non pas en latin, mais un mauvais grec, enfin un grec usuel. Car Marc est un juif originaire de Jérusalem, le traducteur qu'il est respecte les répétitions, dont le traducteur qui est Michel Quesnel, pardon, respecte les répétitions et conserve le même sens chaque fois que le même terme est utilisé dans son ouvrage. Hein. Michel Quesnel nous permet ainsi de rentrer dans l'intimité du récit qui a réellement du caractère, car Marc est un très bon conteur et son œuvre est construite comme un récit. Quant à Michel Quesnel, il termine son livre en nous donnant un dictionnaire de tous les noms propres trouvés dans l'évangile de Marc. Donc c'est un côté très pratique. Hein. C'est comme ça, on ouvre. Pardon. Je tombe sur Satan, mot hébreu signifiant adversaire. C'est l'un des noms bibliques du chef des démons. Vous voyez, donc on peut dire tous les renseignements que l'on veut sur l'évangile de Marc dans cet ouvrage. Retenons que notre auteur colle ses commentaires au plus près du texte de l'évangile selon saint Marc. Il en fait une analyse très complète et parfaitement claire qui ne peut que nous aider à approfondir toute la richesse de ce texte. Alors, par contre, si nous avons ici 102 sections qui découpent l'évangile de Marc, de notre côté, nous avons prévu un découpage différent pour étudier ce texte sur un ou deux ans, en 6, 8, 12 ou 16 rencontres. Rappelez-vous, l'an dernier, frère Vianney nous avait remis des feuilles proposant ses partages. Alors, il est extrêmement facile d'incorporer les commentaires de Michel Quesnel lors de chaque rencontre des groupes. Ainsi, par exemple, mon groupe de lecture a choisi d'étudier l'évangile selon saint Marc en 16 rencontres. Et lors de la huitième, que frère Vianney intitulait « L'annonce de la passion, condition du fils et du disciple », bien nous nous étions servis des sections 49 à 53. Donc si vous voulez un ouvrage vraiment très pratique et très facile d'utilisation, que je me permets de vous recommander. Je vous remercie.